VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcel et Nathalie Barge, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 14 juillet 2015. À la une ce soir.
Au Rwanda, vote unanime du Parlement pour lever la limitation des mandats présidentiels.
Le président ougandais Yoweri Museveni est à Bujumbura pour négocier une solution à la crise politique au Burundi.
L'ONU appelle le gouvernement centrafricain à revenir sur sa décision d'exclure des élections d'octobre les nombreux réfugiés centrafricains.
Un peu plus de 460 000 réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et en République du Congo.
Marie Cissé Ndiaye, chargée des relations extérieures au HCR.
Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara rend l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, une mesure en vigueur dès la rentrée scolaire.
Peu de chefs d'État dans cette région ont pris un tel engagement fort de rendre l'éducation obligatoire, non seulement au primaire, mais même au-delà, jusqu'à l'âge de 16 ans.
Louis Vigneault-Dubois, porte-parole de l'UNICEF à Abidjan.
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et les sanctions internationales, Idriss Jazayri, a appelé à la levée des sanctions contre Téhéran suite à l'accord entre l'Iran et le groupe des 6.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le président rwandais Paul Kagame pourrait se maintenir au pouvoir au-delà de 2017. En effet, le Parlement rwandais a soutenu par un vote unanime une pétition de plus de 4 millions de Rwandais pour faire lever la limite de 2 mandats présidentiels prévus dans la Constitution. Les sénateurs et les députés se sont prononcés à l'unanimité en faveur d'une réforme constitutionnelle. Des amendements doivent encore être votés avant qu'une nouvelle constitution soit soumise à référendum. Selon la présidente de l'Assemblée nationale rwandaise, Donatia Mukabaliza, les élus vont parcourir le pays pour recueillir les réactions de la population.
C'est très important parce que ça relève de la compétence de la population. Nous avons rendu publique la volonté d'environ 4 millions de la population rwandaise. Il y a même d'autres Rwandais qui n'ont pas eu cette occasion de s'exprimer alors que c'est leur droit. Les députés ont même demandé que d'autres articles soient amendés si c'est nécessaire. Nous allons visiter la population à la base pour qu'on puisse se rendre compte de leurs opinions, surtout ceux qui n'ont pas la chance de s'exprimer.
La présidente de l'Assemblée nationale rwandaise, Donatia Mukabaliza.
À une semaine d'une présidentielle controversée au Burundi, le président ougandais Yoweri Museveni a entamé ce mardi à Bujumbura une délicate médiation dans la crise burundaise, entrée dans une nouvelle phase avec des combats armés. Jacques Aristide.
Un séjour de 24 heures pour tenter de régler la crise politique au Burundi, c'est la tâche qui a été confiée au chef de l'État ougandais par la communauté est-africaine après l'échec de 2 médiateurs onusiens. Peu après son arrivée dans la capitale burundaise, Yoweri Museveni a rencontré le président Pierre Nkurunziza en tête-à-tête à l'hôtel Bel Air, rapporte l'AFP. Il a ensuite rejoint une salle de conférence où étaient réunies les parties prenantes à la crise, des ministres dont celui des relations extérieures, Aimé Allain Nyamitwe, des opposants dont le principal adversaire de Nkurunziza, Agathon Rwasa, mais aussi des représentants de la société civile. Au cœur du problème, la candidature de Nkurunziza à un troisième mandat, Museveni, lui-même au pouvoir depuis environ 30 ans et qui ne cache pas vouloir se représenter l'an prochain, doit persuader l'opposition de renoncer à son boycott du processus électoral. Un dialogue qui se déroule sur fond de violence. Le week-end dernier, l'armée burundaise a affronté un groupe armé dans 2 provinces frontalières du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Combats qui ont alimenté des rumeurs d'une offensive à l'approche de la présidentielle du 21 juillet.
L'ONU se dit préoccupée par la décision des autorités centrafricaines de refuser le droit de vote à la présidentielle du 18 octobre aux centrafricains réfugiés dans les pays voisins. Le 30 juin dernier, le CNT a rejeté les dispositions du projet de loi électorale permettant aux réfugiés centrafricains de voter, a dit à la presse à Genève un porte-parole du HCR, Léo Dobbs, ajoutant que ceux qui souhaitent voter sont obligés de revenir en Centrafrique. Les réfugiés centrafricains sont au nombre nombre de 460 000, notamment au Cameroun, au Tchad, en RDC et au Congo. Quelques 190 000 d'entre eux sont éligibles, dont 80% de musulmans, indique le HCR.
République démocratique du Congo, l'ONU et l'armée congolaise mènent des opérations efficaces contre les rebelles des forces révolutionnaires patriotiques de l'Ituri, a déclaré ce mardi devant le Conseil de sécurité le chef de la MONUSCO. Selon Martin Kobler, les efforts communs ont permis de neutraliser environ un quart des forces des FRPI. Depuis le 3 juin dernier, rapporte l'AFP, il a toutefois déploré l'absence de coopération depuis 5 mois dans la lutte contre les FDLR dans les deux Kivu et au Katanga.
Des dizaines de personnes ont été tuées par des membres de Boko Haram ayant attaqué 4 villages du nord-est du Nigeria vendredi, rapporte l'AFP citant des témoignages rapportés ce mardi. Selon un habitant d'un des villages ciblés près de Monguno, 43 personnes ont été tuées par balles ou égorgées. Le chef de la police de l'état de Borno, Aderemi Padokun, a confirmé les attaques.
Après l'annonce d'une chute de 35% des infections par le virus VIH au cours des 15 dernières années, le secrétaire général de l'ONU a estimé qu'une génération prochaine sans sida était possible. Le monde a réussi, nous avons réussi et dépassé les objectifs concernant le sida. Nous allons vers une génération sans sida, a déclaré Ban Ki-moon à Addis Abeba en Éthiopie, où se tient une conférence internationale sur le financement du développement.
Et la chaîne américaine Starbucks ouvrira l'an prochain ses premiers cafés en Afrique subsaharienne à Johannesburg, en partenariat avec le distributeur sud-africain Taste Holdings, annonçait la compagnie dans un communiqué ce mardi. Une grande partie du café servi par la compagnie vient de fermes africaines, a précisé Chris Engskov, directeur de la chaîne pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Starbucks va concurrencer les entreprises sud-africaines, notamment Seattle Coffee Company et Mug & Beans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et la grande nouvelle dans l'international aujourd'hui, l'Iran et les grandes puissances ont conclu un accord historique qui rend quasiment impossible la construction d'une bombe atomique par Téhéran, au moins pendant les 10 prochaines années. Idriss Fall.
Les 109 pages de l'accord limitent les ambitions de Téhéran qui s'engage à réduire ses capacités nucléaires et à laisser les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique procéder à des inspections plus poussées de ses sites militaires. L'Iran va ainsi bénéficier d'une levée progressive des sanctions adoptées depuis 2006. L'embargo sur les armes a été reconduit pour 5 ans, sauf autorisation spécifique du Conseil de sécurité. Cet accord nous donne une chance d'aller dans une nouvelle direction, d'après le président Barack Obama, qui souligne qu'il est fondé sur les vérifications et non pas sur la confiance. Le Congrès américain, dominé par les républicains, a 60 jours pour examiner le texte. C'est aussi un succès pour le président iranien Hassan Rouhani, qui a promis que son pays ne se doterait jamais de la bombe atomique. Paris, Londres, l'Union européenne ou l'ONU ont salué cette percée, mais Israël a dénoncé une erreur historique qui, selon Benjamin Netanyahou, va permettre à l'Iran de financer sa machine de terreur.
Et l'Union européenne a annoncé qu'elle va prolonger jusqu'au 14 janvier 2016 la suspension des mesures restrictives à l'encontre du régime iranien. L'Union européenne avait gelé en janvier 2014 certaines de ses sanctions contre l'Iran, en gage de bonne volonté, dans le cadre des pourparlers qui ont finalement abouti ce mardi à un accord garantissant le caractère civil du programme nucléaire iranien, rappelle l'AFP. Si l'Iran respecte l'accord, les sanctions adoptées depuis 2006 par les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU commenceront à être levées à partir du premier semestre 2016. En cas de violation de l'accord, elles pourront être rétablies.
Un commandant du groupe rebelle syrien, Ahrar al-Kham, et 6 autres combattants ont été tués ce mardi dans un double attentat suicide à la bombe dans le nord-ouest de la Syrie. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais on soupçonne les djihadistes du groupe État islamique.
En Irak, l'armée et ses miliciens alliés chiites et sunnites ont attaqué les positions du groupe État islamique aux alentours de la ville de Ramadi. Dans la province d'Al-Anbar, le gouvernement irakien a annoncé hier une grande offensive contre les djihadistes dans l'ouest de l'Irak. Quelques heures après, 29 frappes de la coalition internationale près de Ramadi. Selon le Pentagone, les raids s'intensifient proportionnellement au rythme des opérations militaires irakiennes au sol.
Presque un an après la mort d'Eric Garner à New York, la ville a annoncé avoir trouvé un accord financier avec la famille de cet Américain, décédé après une interpellation musclée de la police. Son décès on se le rappelle, avait entraîné une série de protestations anti-racisme aux États-Unis. Le point avec Nicolas Pineau.
5,9 millions de dollars, c'est la somme qu'a versée la ville de New York à la famille d'Eric Garner pour éviter des poursuites civiles contre son département de police. La famille réclamait bien plus, 75 millions de dollars, pour négligence, imprudence et manque de soins. C'est le contrôleur général des finances de New York, Scott Stringer, qui a annoncé ce lundi l'accord conclu avec la famille du père de 6 enfants. La mort d'Eric Garner avait suscité beaucoup d'émotions et de colère aux États-Unis. À 43 ans et soupçonné de vente illégale de cigarettes, ce colosse noir avait été plaqué au sol par plusieurs policiers blancs le 17 juillet 2014 à Staten Island à New York, après avoir tenté de résister. Dans une vidéo amateur de l'incident, on voit l'un des policiers lui serrer le cou, une pratique illégale à New York. Obèse et asthmatique, Garner se plaint à plusieurs reprises de ne pas pouvoir respirer avant de perdre connaissance. Il avait été déclaré mort d'un malaise cardiaque à son arrivée à l'hôpital. Sur le plan pénal, un grand jury a décidé en décembre de ne pas inculper le policier blanc ayant utilisé cette technique interdite. Cela avait entraîné une vague de manifestations parfois violentes dans un contexte de vive tension après plusieurs affaires de brutalité policière envers des Noirs aux États-Unis depuis l'été 2014.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco, ce soir avec Camille Gros-Didier.
Selon l'agence de presse africaine, le comité des pêches continentales et de l'aquaculture de l'Afrique a ouvert mardi à Dakar sa session extraordinaire 2015 en présence de plusieurs ministres de la pêche des pays membres. Le ministre sénégalais de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, a noté que les résultats de cette session extraordinaire permettront de renforcer les efforts consentis dans les domaines de la pêche continentale et de l'aquaculture. Le Ghana recherche plus d'un milliard de dollars américains d'investissement initial pour moderniser ses chemins de fer, signalent les médias qui citent la ministre ghanéenne des Transports, Diffa Aku Ativor. But de l'opération, renforcer les transports de marchandises entre la zone d'extraction de manganèse et de bauxite et les ports et zones de transformation. Madame Ativor s'exprimait à l'occasion d'un séminaire de la Ghana Railways Development Authority pour élaborer le plan final du projet de modernisation des lignes de chemin de fer.
Merci Camille pour la Minute Éco.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Ce soir avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir, chérubin.
On commence par le Tour de France de cyclisme. Chris Froome écrase le Tour.
Oui, le Britannique de l'équipe Sky a assommé la grande boucle ce mardi dans la 10e étape qu'il a dominée outrageusement dans la montée de La Pierre-Saint-Martin. Le premier col hors catégorie du Tour 2015 a provoqué de très gros dégâts dans le peloton, surtout après le démarrage de Froome à 6,5 km du sommet. Froome a conforté son maillot jaune et a distancé de plus d'une minute le Colombien Nairo Quintana. L'Espagnol Alberto Contador, autre favori, a cédé près de 3 minutes au sommet dans l'écrin de roche de calcaire blanchâtre qui enserre la station des Pyrénées-Atlantiques.
Transfert en football.
L'attaquant international néerlandais Robin van Persie, qui évolue à Manchester United, a signé ce mardi un contrat de 3 saisons avec le club turc de Fenerbahçe avant d'être présenté à quelques 10 000 supporters ravis. Le joueur de 31 ans et 98 sélections était arrivé dimanche en Turquie pour s'engager après 3 saisons passées à Manchester United. Il a signé un contrat à l'intérieur du stade Sukru Sarıkoğlu où l'ont acclamé les supporters réunis pour sa présentation officielle. On parle aussi de Diallo Guidiley, laissé libre par l'AEL Limassol. Le milieu défensif international mauritanien de 25 ans s'est engagé avec Nancy. Un contrat de 2 ans attend l'ancien Troyen et Brestois qui a convaincu le staff lorrain. Les supporters argentins de Boca Juniors ont exulté lundi en accueillant Carlos Tevez de retour dans le club de son cœur après 11 ans d'exil en Europe. À Manchester City, Manchester United et la Juventus, il est revenu à son meilleur niveau. Tevez, 31 ans, a encore 2 ou 3 belles saisons devant lui. Il sort d'une belle saison avec la Juventus de Turin, auteur de 29 buts, un deuxième calcio et une finale de Ligue des Champions.
Athlétisme, Gay et Bromel rejoignent Gatlin et Vico à Monaco.
Et oui, le 100 mètres du meeting de Monaco s'annonce de feu ce vendredi. Il a pris une nouvelle dimension avec la venue annoncée des Américains Tyson Gay et Trayvon Bromell qui rejoignent Justin Gatlin et Jimmy Vico pour la 10e étape de la Ligue de Diamants d'athlétisme. Les star listes dévoilées ce mardi par les organisateurs du meeting de Ligue de Diamants.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcy, et Nathalie Barge en votre compagnie, place au dossier du jour.
En Centrafrique, le premier tour de la présidentielle du 18 octobre approche à grands pas. D'ores et déjà, les autorités de la transition multiplient les appels en vue des inscriptions sur les listes électorales, mais elles refusent pour l'heure le droit de vote aux quelques 460 réfugiés, soit un dixième de la population installée dans les pays voisins, notamment au Cameroun, au Tchad, en RDC et au Congo. Le HCR espère que le gouvernement centrafricain reviendra sur sa décision. Félix Yepassi Zembrou a joint Marie-Cissé Ndeye, chargée des relations extérieures au HCR.
Nous espérons que les réfugiés participeront aux élections à venir et donc que le Parlement, que les autorités centrafricaines reviendront sur leur décision d'exclure les réfugiés centrafricains du processus électoral.
Ben là, pour l'heure, vous recensez combien de réfugiés dans les pays limitrophes?
Il y a un peu plus de 460 000 réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et en République du Congo.
Ça concerne également les déplacés internes, ceux qui sont sur les différents sites de la capitale et en province?
Tout à fait. Alors, nous avons dans le pays 360 000 déplacés internes, dont un peu plus de 30 000 qui sont actuellement dans la ville de Bangui. Et la plupart de ces déplacés de la ville de Bangui sont au niveau du site de l'aéroport de Poco.
Eh bien, vous espérez attendre une décision quand exactement, madame?
C'est plus la décision des autorités centrafricaines que de l'ANE de manière spécifique. Parce que l'ANE, en fait, là maintenant, c'est le gouvernement centrafricain qui est attendu par rapport à cette décision du Conseil national de transition.
Donc en clair, les négociations sont en cours plus avec le gouvernement qu'avec l'autorité nationale des élections.
Voilà, l'autorité nationale de transition, ils ont sollicité le HCR depuis le 6 juin à les aider à faciliter le vote des réfugiés, j'allais dire. Et donc cela a été acquis avec l'ANE, on va dire. Il s'agissait maintenant de formaliser cette inclusion des réfugiés dans le processus électoral, dans le code électoral, parce que le code initial n'avait pas ces dispositions-là.
C'était Marie-Cissé Ndeye, chargée des relations extérieures au HCR.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Alors, il faut revenir un peu sur cette nouvelle concernant la Centrafrique, Nathalie Barche.
Et oui, rappelons en fait que les réfugiés centrafricains sont en réalité au nombre de 460 000.
Oui, ce qui représente un dixième de la population.
C'est énorme.
Grand changement à la tête des forces de sécurité nigérianes hier. Dans l'objectif de stimuler la lutte contre les islamistes de Boko Haram, le président Muhammadu Buhari a remplacé les chefs d'état-major de l'armée, de la marine et de l'armée de l'air du pays et s'est aussi séparé de son chef de renseignement militaire et de son conseiller à la sécurité nationale. Des officiers qui avaient été nommés par son prédécesseur, Goodluck Jonathan. Pour une réaction à ces changements, Timothée Donangmai a joint le professeur Tondono Amosu, ancien vice-recteur de l'Université de Lagos.
Le choix porte non seulement sur les conditions politiques, vous savez, il faut avoir des représentatifs dans chaque coin du pays, mais je crois que ce sont des gens qui ont quand même fait carrière et qui en suivent se distinguer. De toute façon, ils ont déjà la tâche bien précise. Il faut en finir avec les gens de Boko Haram. Cela fait partie des grands travaux de notre nouveau président. Donc, ils ont vraiment du pain sur la planche.
C'est depuis quelque temps qu'on attend la formation d'un gouvernement au Nigeria. Comment cette dernière décision a-t-elle accueillie?
Même s'il n'y a pas de gouvernement en tant que tel, on sait que la question de la sécurité sur le plan national, c'était vraiment très important. La question était très importante et c'est la raison pour laquelle le président a décidé déjà de démarrer son action. Vous savez, le jour où il a pris le pouvoir, il avait déjà demandé à l'armée d'aller s'installer à Maiduguri pour mieux mener la guerre contre ces gens-là. Et maintenant, les gens se disent que de toute façon, avec le changement, il ne faut pas que les choses restent comme par le passé.
Après les grands succès de l'armée nigériane et des forces régionales camerounaises, nigériennes et tchadiennes, on a l'impression de faire du surplace dans la lutte contre Boko Haram ces jours-ci.
Boko Haram semble au fond du poil de la bête. C'était à la manière, vous savez, les kamikazes. Rappelez-vous ce que les Japonais ont fait dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au coup de Hiroshima et de Nagasaki. Bon, on n'a pas de bombe atomique à leur mettre sur la tête, mais de toute façon, je crois que cette fois-ci, l'armée nigériane est beaucoup mieux préparée. Et de toute façon, la confusion qui a semblé régner au départ, toute cette confusion va pratiquement disparaître. C'est d'ailleurs la raison, c'est ce qui explique que les Boko Haram ils sont de plus en plus lâches et ils ont des raids et chaque fois ils se retirent. Ils n'ont pas de territoire précis. Ils n'ont plus l'habitude d'aller hisser les drapeaux comme ils le faisaient par le passé. Donc aujourd'hui, nous savons que s'ils ont recours à des jeunes filles kamikazes, c'est que cela vous montre à quel point évidemment, la situation est bien grave.
C'était le professeur Tondono Amosu, ancien vice-recteur de l'Université de Lagos.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Côte d'Ivoire, l'école obligatoire, une des grandes ambitions du président Alassane Ouattara, entre en vigueur dès la rentrée prochaine. Cette politique de scolarisation obligatoire, annoncée 3 mois avant la présidentielle d'octobre, va coûter 700 milliards de francs CFA environ. 5000 instituteurs et professeurs de collège supplémentaires vont être recrutés. Claire Morin-Gibourg a joint le porte-parole de l'UNICEF à Abidjan, Louis Vigneault-Dubois.
Tout d'abord, je pense que c'est une décision qu'il faut saluer de la part du président de la Côte d'Ivoire. Je pense que peu de chefs d'État dans cette région ont pris un tel engagement fort de rendre l'éducation obligatoire, non seulement primaire, mais même au-delà, jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc je pense que c'est une décision qui est à saluer. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de défis qui sont devant nous, mais le fait que cette décision ait été prise au plus haut sommet de l'État donne déjà, disons, pave la voie pour pouvoir mettre en œuvre un plan d'action qui va permettre de concrétiser cette volonté, parce qu'il ne s'agit pas simplement que ça reste des paroles, disons, dites par le président, mais ça doit aussi se traduire par une réalité pour les enfants sur le terrain en Côte d'Ivoire.
Vous me parlez de défis. Quels sont pour vous les principaux problèmes qui vont surgir dans la mise en application de cette nouvelle loi ?
Il y a d'abord la construction d'écoles. Il y a un manque d'infrastructures scolaires en Côte d'Ivoire. Donc il faut s'attaquer à ce problème. Mais au-delà des écoles qu'on construit, qui est l'aspect, disons, visible de cette politique, il faut aussi recruter des enseignants. On parle d'environ 5000 enseignants qu'on a besoin de recruter pour les écoles primaires. Évidemment, ces enseignants doivent aussi être formés, parce qu'on parle d'enseignants avec une éducation de qualité pour que l'éducation puisse avoir un sens aussi pour les gens. Et donc tout ça va nécessiter évidemment beaucoup d'efforts pour arriver à atteindre ces résultats. Mais au-delà, disons, de l'aspect, disons, offre de l'éducation, il faut aussi beaucoup travailler avec les communautés, avec les populations pour renforcer la demande de l'éducation. Il faut que cette volonté soit manifestée de la part des parents et qu'eux-mêmes prennent la décision de scolariser tous leurs enfants.
Et beaucoup d'enfants n'ont pas d'acte de naissance, hein, c'est bien ça?
Oui, un des freins justement à l'accès à l'éducation, ça demeure l'acte de disposer d'un acte de naissance. Donc on estime qu'il y a environ 2,7 millions d'enfants qui ne disposent pas d'un acte de naissance en Côte d'Ivoire. Et donc malgré le fait que le gouvernement se soit engagé à accepter tous les enfants à l'école, qu'ils aient ou non un acte de naissance, le problème se pose lorsque ces enfants veulent compléter le cycle primaire. Ah ben, s'ils n'ont pas un acte de naissance, ils ne seront pas admis à cet examen. Donc c'est un effort important qui doit être déployé pour s'assurer que les enfants qui commencent le cycle primaire puissent le terminer et avoir l'examen qui leur confère le diplôme primaire.
C'était Louis Vigneault-Dubois, porte-parole de l'UNICEF à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur l'après tuerie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Après plusieurs années de négociations acharnées, les grandes puissances et l'Iran sont finalement parvenus à un accord. Téhéran accepte des inspections plus poussées de ses sites nucléaires en échange d'une levée progressive des sanctions. Le Congrès américain, contrôlé par des républicains, a 60 jours pour examiner le texte. En quoi est-ce un accord historique? Idriss Fall a posé cette question à Hushang Hassan Yari, professeur iranien au Collège militaire royal du Canada à Kingston.
C'était un des défis majeurs pour la paix et la sécurité internationale. L'Iran, avec le groupe 5 plus 1, est en négociation depuis 2003. C'est un accord très important qui a le potentiel de mettre fin à cette instabilité qui risquait de nous conduire à une autre guerre dans une région, le Moyen-Orient, qui submergeait sous le poids de toutes sortes de conflits.
Tout n'est pas gagné d'avance. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter maintenant.
Absolument. D'abord, en Iran, il y a évidemment des individus et des groupes qui ne sont pas d'accord avec l'accord. L'accord met fin à leur rêve de confronter, disons, l'impérialisme américain, comme ils le disent. Ce sont les gens également, pour la plupart, qui s'enrichissent de la continuation des sanctions économiques imposées à l'Iran. Ce sont des individus également qui ont obtenu des postes très importants au sein de l'État iranien grâce à cette hostilité à l'endroit des États-Unis. Le leader de l'Iran, quoi qu'il ait tombé d'accord pour des raisons tout à fait pratiques, mais lui aussi va être en quelque sorte un opposant silencieux. Ça fait 23-24 ans qu'il est au pouvoir, 95% du temps à peu près, et il part de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est les États-Unis. Il faut que le leader remplace ces 95% de discours avec d'autres choses. De l'autre côté, il y a d'autres pays en particulier qui ne sont pas satisfaits, Israël et l'Arabie Saoudite. Israël, parce qu'il est fort possible que la question des armes nucléaires d'Israël se pose au lendemain de la mise en pratique de cet accord avec l'Iran. Israël est le seul pays qui possède une quantité impressionnante d'armes nucléaires dans la région.
Et l'Arabie Saoudite dans tout ça?
L'Arabie Saoudite a peur de perdre cette proximité qu'elle a avec les États-Unis, et les Saoudiens pensent qu'au lendemain de cet accord, l'Iran va avoir la main libre dans la région du Moyen-Orient, ce qui n'est pas le cas. Et finalement, aux États-Unis, vous avez aussi la droite américaine, les conservateurs américains, les républicains.
Qui dominent le Congrès d'ailleurs.
Des membres du Congrès qui sont contre pour des raisons très identique à celle d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Mais si vous regardez l'accord de près, comme l'avait mentionné M. Obama, le programme nucléaire de l'Iran va être réduit de façon substantielle. Par conséquent, Israël, comme l'Arabie Saoudite, comme les républicains, devraient s'en réjouir.
Le professeur iranien Hushang Hassan Yari du Collège militaire royal de Kingston au Canada.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Alors Nathalie, cette édition touche à sa fin?
Et oui, la mise en onde de l'émission était assurée par Michel Joseph, assisté de Souleymane Tarawale à la console. Et à la présentation, donc, c'était vous-même, Chérubin Dorsil, et moi-même, Nathalie Barge.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Restez avec nous pour les infos dans un instant.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.